Good Morning Business, le grand débrief.
Il est 8h40, c'est l'heure du grand débrief de la matinale avec ce matin Carole Juge-Lewellyn, CEO et fondatrice de June, Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well, et Benaouda Abdedaïm. Benaouda qu'on mobilise immédiatement puisque le président russe Vladimir Poutine vient de faire un discours. Comme d'habitude, pas toujours rassurant, mobilisation partielle en Russie, notamment des réservistes. Il accuse l'Occident de vouloir faire la guerre à la Russie. Tiens, on va écouter tout de suite un extrait de Vladimir Poutine.
Nous entendons des possibilités de recourir à une arme nucléaire contre la Russie. Ce sont des paroles des représentants de l'OTAN. Je tiens à vous rappeler que la Russie est également dotée d'un certain nombre d'armes suffisamment lourdes. Et si jamais les intérêts nationaux de la Russie sont menacés, nous allons sans aucun doute utiliser toutes les armes qui sont à notre disposition. C'est très sérieux. Nos citoyens doivent savoir que notre intégrité territoriale, notre liberté seront défendues, je le répète, par tous les moyens nécessaires. Ceux qui font du chantage avec l'arme nucléaire, cela peut se retourner contre eux.
Benaouda, comme à chaque fois, la Russie explique être attaquée, c'est pour ça qu'elle doit se défendre. Et donc, Vladimir Poutine annonce cette mobilisation partielle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, premier point fondamental, la loi martiale n'est pas déclarée. Et c'est un point tout à fait fondamental, premier point. Effectivement, c'est une mobilisation partielle. Certains observateurs, certains analystes s'attendaient à une mobilisation générale. Ça voudrait dire qu'on aurait mobilisé toutes les classes d'âge en mesure de faire la guerre. Nous en avons parlé ici la semaine dernière. Le chef d'état-major de l'armée allemande avait relevé que 60% des forces terrestres étaient engagées dans ce conflit russe. Ce qui veut dire qu'il y a encore 40% des forces terrestres qui peuvent être engagées. Alors, le président russe a dit que les soldats de la réserve seraient mobilisés avec une formation complémentaire. Et tout l'objet de cette allocution est en fait d'appuyer les référendums d'annexion dans les territoires russes les territoires ukrainiens occupés par la Russie. La mobilisation partielle a lieu aujourd'hui. Les référendums vont commencer le 23 septembre, s'achever le 27 septembre. Il faut rappeler que l'annexion de la Crimée a eu lieu en 4 jours. Donc, on peut penser que d'ici au milieu de la semaine prochaine, les territoires ukrainiens à l'est vont être annexés par la Russie au terme de ce processus et des procédures juridiques qui sont mises en place à Moscou. De ce point de vue-là, ça ne fait plus aucun doute, étant donné la tonalité du propos du chef de l'État russe. Deuxième point concernant effectivement cette idée, cette mise en garde présidentielle russe contre ceux, je cite, qui pratiquent le chantage nucléaire contre la Russie. On peut voir déjà dans les premières réactions des médias russes, malgré tout, le rappel qu'à aucun moment, explicitement, un responsable russe jusqu'ici n'a menacé d'utiliser l'arme nucléaire face à une offensive. Quoi qu'il en soit, si ces territoires ukrainiens deviennent russes, ça voudrait dire qu'une attaque extérieure perçu comme extérieur contre ces territoires serait perçu comme une atteinte à la
contre la Russie,
contre l'intégrité territoriale de la Russie, et donc pourrait justifier légalement du point de vue de la Russie l'usage d'une arme tactique nucléaire. Mais tout cela relève encore somme toute de la spéculation d'analystes et pas de la position officielle de la Russie. Et de ce point de vue là c'est un dernier point et j'arrêterai là. L'UE pourrait déjà songer à introduire un septième train de sanctions après ces référendums dans le Donbass et Luhansk, ces référendums d'annexion.
Alors, un septième train de sanctions, c'est intéressant parce que ce matin, on était avec le PDG de Duralex qui utilisait l'expression de confinement énergétique. C'est-à-dire que la crise qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre dans les prochaines semaines est sans doute encore plus grave que la crise du Covid, où on était dans un confinement sanitaire. Cette fois-ci, la Russie, c'est l'arme russe du confinement énergétique, de nous priver des énergies. On imagine, Raphaël Bloch, ce matin, que sur les marchés qui étaient déjà très anxieux à quelques heures de la décision de la Réserve fédérale d'augmenter ses taux, là, le tableau s'assombrit. Est-ce qu'on pourrait vivre un krach financier, krach boursier ?
Alors, c'est compliqué de le savoir aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on est déjà dans une situation qui est un peu compliquée d'un point de vue macro. On le sait, les banques banques centrales sont en train de fortement remonter les taux, ce qui met sous pression les marchés. J'allais dire que cette escalade supplémentaire dans le conflit en Russie peut peut-être constituer l'étincelle qui pourrait faire effectivement exploser les marchés. Après, on suivra. Hein, ce soir, la Fed doit annoncer de combien elle relève ses taux. On sait que la BCE suivra. Donc voilà, en fonction aussi de la réaction de Washington, de Bruxelles, hein, à ces nouvelles menaces russes. Donc il faut juste se laisser le temps de savoir comment on va réagir.
Carole Jugelet-Wellin, ce matin, on faisait un débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Daux sur est-ce que 2023, c'est le pire avenir ou le meilleur ? Et il nous disait, et si tout dépend de Vladimir Poutine et de ce qu'il va annoncer ? Là, on est plutôt sur le scénario catastrophe. Est-ce que ça change la donne complètement quand on est chef d'entreprise ? Vous disiez, je vais rentrer là dans ma boîte, ils vont tous être déprimés.
Bah, c'est vrai que l'annonce de la guerre en Ukraine en février a mis un coup d'arrêt. Enfin, mentalement, c'est difficile. La guerre à la porte de l'Europe, ça fait vraiment des décennies que c'était pas arrivé. Donc, je pense que les jours d'annonce comme ça, en plus, on sort de 10 jours de deuil en Angleterre avec la mort d'Elisabeth II, c'est quand même aussi pas neutre, quoi, d'un point de vue mondial. Ça met un petit coup d'arrêt. Après, je pense que notre rôle en tant que chef d'entreprise, ça a toujours été de donner de l'énergie, insuffler quelque chose de positif. Donc, voilà, je resterai toujours la personne la plus positive, même dans des jours aussi durs qu'aujourd'hui.
On continuera à vous inviter pour ça.
Voilà. C'est clairement une mauvaise nouvelle. Après, je pense que la diplomatie est aussi là pour ça et pour éviter que l'échelle vers la catastrophe ne fasse que continuer.
C'est vrai que l'inquiétude ce matin et l'interrogation, c'est qu'on a encore célébré ce matin une levée de fonds. Alors, je sais qu'il n'y a pas que la levée de fonds dans la vie, mais ça veut dire que ça continue, que la French Tech continue quand même de se financer. Il y en aura une tout à l'heure à midi avec Sandra, une deuxième levée de fonds à 240. Demain matin, on aura encore une levée de fonds. Tout ça pour dire que jusqu'à présent, malgré cet environnement extrêmement sombre, ça tenait. Le risque maintenant, c'est qu'à un moment donné, qu'il y ait un décrochage, que ce soit sur les marchés, que ce soit auprès des investisseurs financiers. On redoute tous un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ce que vous disiez, Raphaël. Hein.
Oui. Et effectivement, juste pour rebondir sur la French Tech, on sait que la French Tech se porte bien. Les chiffres sont records à quasiment tous les niveaux, notamment sur le levée de fonds. Maintenant, il ne faut pas non plus perdre de vue que la French Tech, même si elle est connectée à l'économie française, est un îlot un peu particulier qui peut-être souffrira un peu moins que l'économie au sens large. On sait que justement à cause de la crise énergétique, une partie de l'industrie française va être durement impactée. Donc la French Tech sera touchée, mais effectivement entre les levées de fonds et finalement des business qui sont à la fois nationaux et internationaux, ils arriveront sûrement à s'en sortir un peu mieux dans les mois qui viennent.
Mais justement, parce que nous, en fait, on est la French Tech est là pour amener des choses innovantes et avoir énormément d'agilité. C'est-à-dire que vous avez une start-up qui un jour fait quelque chose, se rend compte que dans le marché actuel, ça fonctionne peut-être plus. Les start-up ont une capacité à pivoter qui est exceptionnelle, là où des grands groupes, ce serait beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Donc, à la fois, on a cette problématique de financement, mais on a quand même levé 10 milliards cette année. On a atteint ce chiffre-là en novembre l'an dernier. Donc, on lève plus d'argent que l'année précédente. Donc, on a cette capacité à innover et à pivoter, qui je pense protège un petit peu plus les startups. Après, l'économie mondiale tanque, les startups tankent aussi un petit peu, c'est évident.
Benahouda, là c'est le ministre de la Défense russe qui dit la Russie ne combat pas tant l'Ukraine que l'Occident. Donc là, effectivement, on a quand même une tonalité beaucoup plus forte ce matin avec la mobilisation de 300 000 réservistes.
Au demeurant, c'est le discours qui est tenu depuis le 24 février. Il n'y a pas de ce point de vue, du point de vue de la doctrine, une modification fondamentale. Ce sont exactement les mêmes formules que l'on a pu entendre dans l'allocution du président russe.
Donc pour vous, il n'y a pas de gradation ce matin?
Justement, il y a une gradation. Le fait d'insister sur la mobilisation partielle, le fait que ça ne soit pas la loi martiale, montre qu'on n'est pas au terme d'un processus, même si encore une fois...
C'est une escalade maîtrisée.
C'est une escalade maîtrisée, selon un calendrier très serré, c'est-à-dire, encore une fois, dès la semaine prochaine, le milieu de la semaine prochaine, ces territoires ukrainiens passeront sous souveraineté russe unilatérale, mais passeront sous souveraineté russe. Et c'est une réponse déterminée, foudroyante à... la volonté des Américains et des Occidentaux en règle générale d'armer avec des armes de pointe efficaces l'armée ukrainienne.
Mais c'est quand même un risque d'engrenage, vous l'avez très bien décrit Benahouda tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment où ces territoires deviennent des territoires russes, toute intervention de l'Occident sera désormais, bientôt, dans quelques jours, considérée par les Russes comme une agression directe contre la Russie.
Tout à fait, mais pour le moment, officiellement, il n'y a que l'armée ukrainienne qui combat l'armée russe.
Pendant ce temps-là, il y a la Climate Week à New York où on dit qu'il faut faire moins, que c'est le moment de... Mais en fait, on est complètement soumis au chef des horloges énergétiques, Vladimir Poutine. Comment vous analysez cette crise énergétique à venir ? Tout change, tous les comportements changent ?
Alors, tous les comportements ne changent pas, mais ils devront changer. Mmh. Et je prends juste un exemple. Hein. Vous savez, le plus gros fonds souverain de la planète, donc le fonds norvégien,
a 2000 milliards, hein, je crois.
C'est 1200 milliards, ouais. Je crois, à date de dollars et d'euros, parce que maintenant, il y a la parité. Ouais. Donc, c'est à annoncer que les 9000 entreprises dans lesquelles il a investi devront, à échéance 2050, passer en zéro carbone. C'est un engagement qui est souhaitable. Après, on peut discuter finalement de l'échéance, ce que c'est 2050, ce que c'est avant. Je pense que plus fondamentalement, ce qu'on va devoir établir, et on a déjà pas mal avancé là-dessus, c'est les critères. C'est-à-dire que comment on arrive en fait à mettre en place des critères qui permettent d'évaluer sérieusement la réduction de l'impact et de l'empreinte carbone en fait des entreprises. Parce qu'on va tous devoir le faire, mais c'est comment on va l'évaluer et comment on va réussir à atteindre ces objectifs de manière pérenne.
Un fonds souverain norvégien, Benahouda, pardon, qui a fait son capital et sa fortune sur les hydrocarbures.
Oui, qui a une communication de ce point de vue-là extraordinaire d'efficacité, mais effectivement dont la fortune repose sur cette exploitation des hydrocarbures. Et c'est l'Assemblée générale des Nations Unies cette semaine. Chacun va être face à ses propres contradictions fondamentales. C'est le PDG d'Aramco, la plus grande compagnie d'hydrocarbures au monde, qui a expliqué que si demain matin le conflit en Ukraine s'arrêtait, ça ne remettrait en rien en cause l'insuffisance chronique d'investissement dans un secteur qui, quoi qu'on en dise, vu d'Aramco ou vu de Qatar Energy et vu de plein d'autres compagnies d'hydrocarbures productrices, ce défaut d'infrastructure et ce défaut d'investissement va peser durablement sur l'offre énergétique mondiale, et que derrière un discours qui se veut tourné vers la transition énergétique, on en oublie les fondamentaux. Encore une fois, selon le PDG d'Aramco, qui est d'investir dans ce secteur.
Carole Juge-Léouéline, on a parlé ce matin du Chief Climate Officer qui apparaît dans les entreprises, c'est-à-dire en gros celui qui éteint les radiateurs et qui explique qu'il faut fermer la lumière.
C'est un peu plus que ça, non ?
Apparemment, c'est un job à 80 000 euros par an, ce qui est quand même pas mal. Alors, on a eu les Chief Happiness Officer, on a eu les Covid Officer, maintenant on a ceux qui s'occupent des radiateurs. Est-ce que vous en avez dans votre boîte ?
Alors, il se trouve que chez nous, on a une responsable qualité et RSE qui est avec nous depuis, je pense, presque 3 ans maintenant, qui est une jeune fille formidable, une formation ingénierie, et elle a toujours travaillé, justement, œuvré pour qu'on soit dans le respect de toutes les règles environnementales, évidemment, qualité, mais également, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses qu'aujourd'hui, on ne monitore pas. Il y a des outils qui existent, tu en parlais. Nous, on travaille avec une start-up qui s'appelle Carbo et qui s'occupe de justement le bilan carbone de l'entreprise et qui... fait travailler les salariés en disant très bien, donc vous prenez le vélo, vous prenez le métro, vous prenez ci, vous consommez quoi au quotidien.
On fait l'addition de chacun.
Éduquer. Exactement, on fait l'addition de chacun et après la somme de tout monte le bilan carbone de l'entreprise. Donc voilà, donc Marie, elle fait, puisque c'est son prénom, travaille avec nous et c'est son job chez June à plein temps, et on n'a pas attendu que ce soit la mode pour le faire parce que c'était important pour nous d'avoir justement ce positionnement positif et bienveillant envers l'environnement et surtout de pouvoir le mesurer, parce que parler des choses c'est bien, le greenwashing ça ne sert à rien, il faut mesurer, sans data, on est juste une personne avec une opinion.
Raphaël ?
Ben non, mais je partage ce point de vue. Alors, nous, chez The Big Whale, on n'a que 5 mois, donc on n'a pas encore le Climate Chief Officer.
Juste petite... Faites une annonce.
Non, mais on le fera, j'espère, dans les mois qui viennent. Non, juste petite anecdote, on a aussi choisi de s'appeler The Big Whale parce que, et les gens ne le savent pas, en fait, les baleines sont un puits de carbone. Et donc, nous, à terme, ce qu'on aimerait bien, avec les excédents qu'on dégagera, c'est aussi contribuer à la protection des baleines, parce que justement les animaux font partie de l'écosystème et les baleines permettent de détenir pas mal de carbone et de protéger la planète.
J'en profite, Raphaël, vous êtes sur ce plateau, il y a un petit événement dans le domaine des cryptos aujourd'hui avec le Nasdaq qui dit qu'il va peut-être, pourquoi pas lui aussi, être un hébergeur, être un garant de stocker les cryptos, peut-être les NFT. C'est une bonne nouvelle ça pour l'univers des cryptos, cet embourgeoisement, cette institutionnalisation.
Alors je ne sais pas si le terme embourgeoisement plairait aux aficionados du secteur. Ce qui est sûr, c'est que le Nasdaq est la deuxième plus grosse bourse de la planète. Ouais. C'est la place de marché qui accueille des géants comme Apple, Amazon. Et effectivement, qu'un tel acteur propose donc de la conservation d'actifs numériques, est un pas supplémentaire dans l'institutionnalisation du secteur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'y intéressent, mais qui n'ont pas, on va dire, d'acteurs qui leur donnent suffisamment confiance pour se lancer et donc pour les aider à acheter, vendre et conserver.
Ouais.
En fait, c'est de ce point de vue-là où il y a effectivement quelque chose d'intéressant. Après, on verra, parce que les marchés...
Ça rassure, quoi. C'est là pour ça.
C'est-à-dire, quand vous êtes une grande entreprise, travailler avec le Nasdaq, c'est un peu différent que de travailler effectivement avec un acteur de la crypto qui s'est créé il y a 2 ans. Voilà, où ils se disent, bon, ils sont bien, mais on ne les connaît pas plus que ça, donc...
Et on va vous poser une question difficile pour la fin, il nous reste 1 minute. À tous les trois, nos experts et nos éditorialistes sont perdus sur la conjoncture 2023. On a des fourchettes entre moins 4% de croissance et plus 4%. Compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, Poutine, les taux d'intérêt, Carole, la croissance 2023 ?
Je pense que la croissance 2023, ce qui est intéressant, c'est de voir le cumulé sur l'année. Enfin, 2023, je pense que ça va commencer très durement.
Ouais.
Q1, premier trimestre, deuxième trimestre 2023, ça va être très dur. Après, ça va remonter. Donc, bon. À la
ça fait de l'espoir.
J'adore l'optimisme de Carole Jugelet-Wayne jusqu'à la fin. Raphaël.
Alors, le journaliste aurait tendance à être pessimiste, mais j'allais dire, l'être humain serait optimiste. Et donc, j'espère qu'effectivement, on aura plus de croissance en 2023.
Belaouda.
J'ai une certaine admiration pour ceux qui arrivent à regarder quelque chose en fonction des paramètres monétaires, géopolitiques, etc.
Il faut dire qu'en ce moment, on est quand même servi.
Et ceux qui arrivent à savoir si ça sera moins 3,5 ou plus 3,5 sont vraiment d'excellents prévisionnistes.
C'est pour ça que poser les questions, c'est parfois plus facile que d'y répondre quand même.